Le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Ukraine au cœur de l'agenda politique d'Emmanuel Macron. Le président recevra tout à l'heure les chefs de parti pour expliquer ses récentes déclarations sur le sujet. Tandis que sur le front, la guerre dure depuis 2 ans. Elle est aussi, vous l'entendrez, numérique.
Les violences en Haïti inquiètent les Nations Unies. Elles sont telles que Médecins Sans Frontières, déjà très présent sur place, a dû revoir son dispositif.
Alors qu'on attend la décision de la Banque Centrale Européenne sur les taux directeurs, reportage en Allemagne, où la crise du logement se fait ressentir.
Un peu d'économie aussi dans le billet politique de Jean Lémarie. Simplifier, est-ce compliqué ? Il va revenir sur les annonces de Bruno Le Maire. Rendez-vous donc à 8h15.
Le rendez-vous est à 10h30 ce matin à l'Élysée pour parler de la guerre en Ukraine qui dure depuis 2 ans. Emmanuel Macron recevra les chefs de partis politiques, les responsables de la majorité et de l'opposition, ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat avant un vote parlementaire la semaine prochaine. Le chef de l'État va leur expliquer ses récentes prises de position, notamment sur l'éventuel envoi de troupes en Ukraine, Stéphane Robert.
Emmanuel Macron a décidé de faire de l'Ukraine un élément majeur de l'agenda politique des prochains jours et des prochaines semaines. Et la réunion ce matin à l'Élysée avec les chefs des principales formations politiques du pays en est l'illustration. Il estime que la guerre aux portes de l'Europe et la menace que représente la Russie seront au cœur de la campagne électorale à venir en vue des européennes de juin prochain. Il veut donc pousser les uns et les autres à clarifier leur position. Emmanuel Macron va d'abord s'expliquer, lui, au cours de cette réunion, notamment sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine, évoqué en début de semaine dernière. Il va expliquer pourquoi il a dit ça, raconter les difficultés que rencontre l'Ukraine et le risque d'un renforcement des positions russes dans les mois à venir. Il dira aussi son intention de mobiliser les partenaires européens de la France, et puis il écoutera les récriminations qui lui seront faites. Car tous ou presque vont lui reprocher des déclarations qualifiées de va-t-en-guerre. C'est irresponsable, lui dira Éric Ciotti pour les Républicains. Il est hors de question d'aller faire la guerre en Ukraine, abondera Fabien Roussel au nom du Parti communiste. Mais pour le président, ces échanges seront aussi, et peut-être surtout, l'occasion de débusquer derrière les discours pacifistes une forme de bienveillance à l'égard de Vladimir Poutine, en particulier du Rassemblement national. Et il y a là un véritable match organisé par Emmanuel Macron. Il semble avoir l'intention de faire de la cause ukrainienne un révélateur de la proximité passée de sa principale adversaire politique, Marine Le Pen, avec le président russe, Vladimir Poutine.
Stéphane Robert, et parmi ceux qui seront présents ce matin à l'Élysée, il y a Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise.
Je m'en rendrai à cette réunion parce que je suis inquiet face à la multiplication des discours va-t-en-guerre auxquels on assiste depuis maintenant plusieurs jours. Je suis inquiet face aux déclarations du président de la République lui-même, qui il y a quelques jours n'a pas exclu l'intervention de troupes françaises en Ukraine. Et donc oui, j'ai l'intention de participer à cette réunion pour y porter tout simplement la voix du camp de la paix, de ceux qui pensent que l'issue militaire, la surenchère militaire en Ukraine n'est pas la solution. Et que la solution, elle doit passer par l'ouverture d'une voie diplomatique, par la négociation, par la diplomatie pour que les armes s'arrêtent le plus rapidement possible. C'est cette orientation que j'ai l'intention de porter. Pour être tout à fait honnête, je trouve qu'il aurait quand même été correct d'organiser le rendez-vous avec les responsables de formations politiques avant de tenir des propos aussi stupéfiant que les propos qu'a tenus le président de la République la semaine dernière. Néanmoins, la réunion aura lieu. Quant au vote de mardi, à ma connaissance à ce stade, on n'a pas encore connaissance du document sur lequel on est amené à voter. Donc je forme le vœu qu'on puisse avoir connaissance de ce document maintenant le plus rapidement possible. Et en fonction de ce que contient ce document, nous déterminerons notre position de vote.
Manuel Bompard de la France Insoumise au micro de Sophie Delpont. L'Ukraine, 2 ans donc après le début de l'invasion russe, a notamment besoin d'armes et de munitions. La période est difficile pour Kiev, mais le pays reste très actif sur un front numérique. Ou comment pirater des sites russes pour mettre à mal l'économie de guerre de Moscou? Ces cybersoldats sont épaulés par des volontaires du monde entier. Vanessa Decoureau a recueilli le témoignage de l'un d'entre eux.
Pour faire la guerre à sa façon, Olivier n'a pas besoin d'être en Ukraine.
Depuis un hôtel, depuis chez moi, depuis partout où il y a du wifi, quoi.
Même depuis son canapé en Belgique, Olivier peut paralyser des sites de compagnies russes, des services financiers ou encore des institutions ministérielles.
Il y a quand même une éthique. Comme les hôpitaux, ça n'y touche pas. Des installations qui permettraient à des avions civils de voler, non plus. Ça, c'est, j'y tiens.
Près de 6000 volontaires ont rejoint l'armée électronique ukrainienne, une vingtaine de francophones désormais réunis dans l'unité formée par Olivier.
C'est, je dirais, 50% de ma vie, je vais dire. Au moins. Si mes compétences pouvaient être utilisées à meilleur escient, ça serait pas plus mal. J'ai pas de fierté particulière.
Ces spécialistes de la cybersécurité sont rattachés au ministère numérique ukrainien qui leur envoie les missions à effectuer avec toujours la même cible, l'économie russe.
En une année, il y a eu 400 millions de dollars de dégâts. Hein. 400 millions de dollars, c'est quand même des munitions en moins pour la Russie. C'est des soldats en moins qu'on paye. Donc, c'est un impact. Hein.
Ces cyber-volontaires font également tout un travail pour contrer la propagande du Kremlin sur les réseaux sociaux, guerre dans laquelle Moscou a pris beaucoup d'avance.
Vanessa Descoureaux, la communauté internationale mobilisée également sur un autre conflit, celui entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Il a commencé il y a exactement 5 mois, le 7 octobre, avec les attaques menées par le mouvement islamiste palestinien. Cette guerre dans l'enclave assiégée par l'État hébreu est, je cite, « une honte pour la civilisation », a déclaré ce matin le chef de la diplomatie chinoise. La situation humanitaire à Gaza est au cœur des matins de France Culture. On y reviendra après le journal.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. La situation est critique en Haïti, s'inquiète le Conseil de sécurité de l'ONU.
La violence est plus qu'insoutenable pour le peuple, a dénoncé hier le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, selon qui près de 1200 personnes ont été tuées depuis le début de l'année à cause des gangs, au point que Médecins Sans Frontières annonce muscler son dispositif d'accueil à Port-au-Prince. Éric Biégala.
Le dispositif haïtien de MSF est déjà conséquent. 4 hôpitaux, plusieurs cliniques, en tout 1500 employés. Mais ce n'était plus suffisant, explique Sarah Château. Elle est chargée des opérations de MSF en Haïti.
Depuis jeudi, on reçoit un afflux massif de blessés, principalement des blessés par balle. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté la capacité d'accueil. Il faut imaginer qu'on reçoit entre 10 et 15 blessés par balle par jour. Donc on a rajouté une vingtaine de lits. Et on a aussi ouvert un deuxième hôpital pour prendre en charge les blessés par balle. C'était prévu qu'il ouvre, mais on a un peu accéléré l'ouverture afin d'augmenter notre capacité d'accueil.
Mardi, le principal chef de gang, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui contrôle une bonne partie de la capitale Port-au-Prince, prévenait d'une possible guerre civile en Haïti. Et pour Sarah Château, on n'en est pas loin.
C'est vrai que les niveaux d'exposition à la violence qu'on peut voir sur Haïti sont assez équivalents à des guerres comme on a pu voir sur des enquêtes qu'on aurait fait en Syrie en 2014, en Irak. On avait des taux de mortalité assez similaires finalement. Donc on est vraiment déjà dans une situation similaire à une guerre civile.
Autre signe manifeste de la réalité de cette guerre, le nombre de réfugiés. Près de 15 000 personnes ont dû fuir Port-au-Prince ces derniers jours, selon l'ONU, qui a commencé à leur distribuer nourriture et produits de première nécessité.
Et nous reparlerons d'Haïti dans le journal de midi et demi avec l'invité de Thomas Cluzel, avec le docteur en sciences politiques Romain Lecourt Grand Maison. La crise politique est-elle bientôt terminée? Au Sénégal, l'élection présidentielle devrait finalement avoir lieu fin mars. Prévue au départ le 25 février, le dirigeant Macky Sall avait décidé de la reporter sans donner alors de nouveau calendrier. Tout s'est accéléré hier soir, d'abord avec la date du 24 mars, proposée par Macky Sall en Conseil des ministres, puis avec la décision du Conseil constitutionnel qui, de son côté, avance celle du 31 mars. Il reste donc un peu de confusion. À Dakar, Théa Olivier.
Les députés sont en train de terminer les débats sur la loi controversée d'amnistie quand les nouvelles sont tombées coup sur coup. Le Conseil constitutionnel a rejeté la proposition de voter le 2 juin. Le gouvernement a été dissous. Le président Macky Sall a annoncé un vote pour la présidentielle le 24 mars. Puis les juges constitutionnels ont parlé du 31 mars, laissant s'installer la confusion. Abdoumbo, président du groupe parlementaire de la majorité Benoboc Yakar, est satisfait de ces décisions.
Le Sénégal est un pays où les institutions fonctionnent, où la démocratie est là, et nous sommes des républicains, nous ne pouvons pas ne pas quand même se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel.
Entre-temps, les parlementaires ont voté la loi qui amnistie tous les faits criminels ou correctionnels se rapportant aux manifestations politiques entre 2021 et aujourd'hui. Elle permettrait à Ousmane Sonko, farouche opposant de Macky Sall, d'être libéré. Une libération qui profiterait aussi à son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye, qui le remplace dans la course à la présidence depuis qu'il en a été écarté par le Conseil constitutionnel. Aïb Defe est député de son parti, le PASTEF.
Une des revendications de l'opposition, c'était une date avant le 2 avril. On a atteint cet objectif, même si je dis que quand même, nous, notre candidat, déjà Bassirou Diomaye Faye, il faudrait qu'il soit immédiatement libéré. pour qu'il puisse participer à la campagne et qu'on ait l'égalité des candidats soit assurée.
Le Premier ministre Amadouba a été démis de ses fonctions pour se concentrer sur sa campagne électorale en tant que candidat du camp au pouvoir.
Théa Olivier, la décision de la BCE, la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui est très attendue. Elle doit se prononcer sur les taux directeurs. Celles et ceux qui souhaitent emprunter pour investir dans l'immobilier espèrent une baisse. Depuis la hausse de ces taux en 2022, la crise du logement s'est installée en Europe. Pas assez de construction, trop de demandes. C'est le cas notamment en Allemagne. À l'achat ou à la location, trouver un logement relève de l'exploit. Dans le sud-est de Berlin, Sébastien Baer a assisté hier à une visite d'appartement.
Au troisième étage de l'immeuble à la façade ocre, Anna, 19 ans, a trouvé l'appartement de ses rêves. 35 mètres carrés, un balcon vu dégagé, 600 euros de loyer mensuel et à proximité de l'université Humboldt où elle est étudiante.
C'est difficile de trouver un logement abordable. Ça fait un an et demi que je cherche. Il y a de moins en moins de visites. Et parfois, il peut y avoir 200 personnes. Dès qu'une annonce est mise en ligne, j'envoie tout de suite un email dans les deux minutes qui suivent la publication. Cela peut être pour 17 mètres carrés, ou même une petite chambre d'étudiant. Honnêtement, à la longue, je n'ai plus aucune exigence.
Ce jour-là, une dizaine d'autres personnes visitent l'appartement. L'agent immobilier Jean-Loup Reynaud, un Français installé depuis 10 ans à Berlin, a dû faire le tri parmi les dossiers.
J'ai mis l'appartement en ligne sur les plateformes. Après 5 minutes, j'avais 85 demandes. Et si je l'avais laissé 24 heures, j'en aurais eu peut-être 2 ou 3 000. L'offre est très très faible. Le marché locatif est complètement saturé à Berlin. C'est vraiment le parcours du combattant pour se loger. Parce que lorsqu'un locataire déménage, via le bouche à oreille, il arrive à trouver un repreneur. Ce genre d'appartement-là, en 24 heures, c'est réglé.
À Berlin, où 85% des habitants sont locataires, l'arrivée des réfugiés ukrainiens et la baisse du nombre de chantiers ont encore saturé un peu plus le marché. La crise du logement touche toutes les villes allemandes, mais c'est dans la capitale qu'elle est la plus durement ressentie.
Copernicus annonce un 9e record mensuel consécutif de température. Le mois de février dernier a été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, selon l'Observatoire européen. Copernicus alerte aussi sur des températures jamais mesurées à la surface des océans en février 2024, toujours dépassant celles enregistrées en plein été en août dernier. Éric Dupond-Moretti, au nom de la République française, a demandé pardon hier soir. Pardon aux personnes homosexuelles qui ont su 40 années de répression. Le garde des Sceaux s'exprimait à l'Assemblée. Les députés ont ensuite approuvé à l'unanimité en première lecture une proposition de loi visant à reconnaître et réparer les préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 82. L'Assemblée a rétabli le principe d'une réparation financière et la création d'une commission chargée de statuer sur ces demandes que le Sénat avait supprimées. Toute autre proposition de loi discutée depuis hier à l'Assemblée, elle concerne les professeurs de hip-hop. Pour l'enseigner, un diplôme d'État pourrait devenir obligatoire. Deux députés Renaissance sont à l'origine du texte, avec l'objectif de professionnaliser l'enseignement de la discipline. Cette obligation s'applique déjà aux profs de danse contemporaine, classique et jazz. Mais une pétition contre le projet a déjà réuni plus de 11 000 signatures. Danseurs hip-hop, professeurs, artistes, pour eux, ce texte pourrait faire plus de mal que de bien dans le secteur, Aurore Richard.
Ce diplôme d'État, niveau Bac plus 3, doit permettre de valoriser le métier de professeur de hip-hop. Et d'après les élus qui portent ce texte, il doit aussi garantir la sécurité des pratiquants. Pour obtenir ce sésame, il faudra valider plusieurs centaines d'heures de formation, mais aussi le payer, minimum 450 euros pour ceux qui obtiendraient des aides. Et pour les autres, cela pourrait dépasser les 5000 euros, selon Annick Arnold, professeur de hip-hop.
C'est élitiste, dans le sens où ce diplôme s'adresse quand même à certaines catégories sociales. La culture dans hip-hop, c'est une culture de rue. Le fait d'avoir des coûts pour pouvoir passer un diplôme, ça laisse de côté les acteurs et les jeunes qui sont de cette culture-là.
Et cela risque d'entraîner une pénurie de professeurs. D'après Cambod Artistique, qui enseigne cette discipline depuis 20 ans, il estime qu'il ne faut pas imposer de cadre trop rigide à son milieu.
Là, en ce moment, tout le monde est professeur de hip-hop dans la communauté, les gens qui sont en place. Tous ceux qui veulent prétendre à l'être, ils sont libres de le faire. Donc, on veut garder cette liberté qui est vraiment l'essence des danses hip-hop associées à leur culture qui est indissociable.
Il dénonce aussi la sanction prévue pour celui qui exercerait sans diplôme d'État, une amende d'un montant de 15 000 euros.
Et précisons que dans la proposition de loi, ceux qui enseignent le hip-hop depuis plus de 4 ans pourraient être dispensés de cette obligation. La météo aujourd'hui en France, ce sera plutôt ensoleillé. 10 degrés attendus cet après-midi à Lille et Strasbourg, 13 à Paris, 14 à Brest et Nice, jusqu'à 17 à Perpignan. Et la Charente-Maritime est placée en vigilance orange crue.